VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge et Abdourahman Dia, bienvenue à l'écoute de cette édition du 6 décembre 2016 à la une ce soir.
Un mort et 14 blessés dans des violences politiques au Ghana à la veille de l'élection présidentielle.
Au Mali, une centaine de prisonniers se sont évadés lors d'une attaque de la prison de Niono dans la région de Ségou.
La commission électorale en RDC assure que le calendrier est prêt mais ne sera pas publié dans l'immédiat.
Au Tchad, la police a dispersé des femmes syndicalistes au départ d'une marche contre l'austérité budgétaire.
Nous avons été vraiment surpris par l'arsenal que le gouvernement Tchadien a sorti aujourd'hui pour faire face. Tous les arsenals étaient dehors aujourd'hui. Et même l'hélicoptère survolait la ville de Ghana. Donc nous avons vraiment négativé.
La présidente du comité des femmes de l'Union des syndicats du Tchad, Adjudi Gemé.
Ouverture à la haie du procès de l'ex-enfant soldat et chef rebelle de la LRA, Dominique Ongwen.
Et puis dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal.
Dans le nord-est du Ghana, un supporter du principal parti d'opposition a été tué dans des violences en marge d'un meeting électoral, a annoncé la police à la veille de l'élection présidentielle. Des précisions avec Tatiana Mosso.
Les violences ont fait un mort et 14 blessés, dont 6 toujours dans un état critique. Kenny Eboaf, commissaire de police à Tamale, a confirmé que des membres des deux principaux partis circulaient à moto à Cherepony, petite ville à la frontière avec le Togo, et la situation a dégénéré. Le mois dernier, la résidence de Nana Akufo-Addo a été attaquée alors qu'il était en campagne dans le pays. Les électeurs ghanéens sont appelés aux urnes demain, mercredi, pour élire leur nouveau président. La campagne est extrêmement serrée entre les deux favoris, le président sortant John Mahama et son rival historique Nana Akufo-Addo, chef de file de l'opposition. Les 7 candidats en lice ont signé la semaine dernière une charte pour assurer la paix pendant le scrutin dans ce pays d'Afrique de l'Ouest régulièrement cité en exemple pour sa stabilité et son système démocratique.
Multiplication des attaques dans le nord et le centre du Mali après l'attaque de la prison de Banamba il y a 2 semaines. Ce matin, c'était le tour de celle de Niono dans la région de Ségou. Une centaine de prisonniers se sont évadés. On fait le point avec Kassim Traoré.
Les 5 bandits armés qui ont attaqué la prison civile de Niono ont contourné le dispositif classique pour surprendre les surveillants de prison. Les 5 bandits n'ont pas attaqué tous du même côté. C'est pour cela que 2 d'entre eux ont pénétré facilement l'intérieur de la prison en cassant les portes des cellules de fortune. C'est au cours de cette opération que 2 des surveillants de prison ont été blessés. 93 détenus se sont évadés, dont Dagaba Diko, poursuivi pour détournement de 47 millions de francs CFA. Des assaillants sont partis avec 2 motos appartenant aux surveillants de prison. L'armée malienne venue à la rescousse a pu capturer 3 évadés. 48 heures avant cette attaque, des combattants du MNLA basés à Tabangor, à 20 km à l'ouest de Gundam, ont fait incursion dans la foire hebdomadaire d'Échelle. Ils ont imposé le paiement des taxes aux forains. Ces derniers n'ont pas accepté. Les malfrats ont tiré à coups de feu pour intimider les forains. Les combattants de Gandakoué de la zone ont voulu s'interposer, mais ils ont été agressés par les combattants du MNLA qui ont blessé 2 d'entre eux et retiré 2 armes et 2 motos avant de s'éclipser sans inquiétude dans la nature. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au lendemain de l'annonce de la reprise de Sirte en Libye, les forces pro-gouvernementales ont pourchassé les derniers djihadistes du groupe État islamique dans leur ex-fief. Les combattants du gouvernement libyen d'Union nationale ont avancé maison après maison dans le dernier quartier où ils étaient retranchés depuis des mois.
En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale, Corneille Nanga, a annoncé que le calendrier était déjà prêt. Mais il ne sera pas publié dans l'immédiat car la CENI lance une série de consultations. On l'écoute.
La CENI va publier les calendriers. Qu'est-ce que les calendriers? En fait, ça, c'est la séquence détaillée de toutes les activités techniques en tenant compte des contraintes techniques et opérationnelles qui nous indiquent que non, à telle date, on ferait ceci et que nous nous confirmions, bien entendu, à la Constitution ainsi que aux recommandations de l'accord. Du budget, nous avons le budget et évidemment l'accord. Prévoyez que dans les 20 jours suivant la signature de l'accord, La CENI présente au gouvernement le budget du processus électoral. C'est l'occasion pour le dire que, contrairement à ce que nous avons entendu de certaines presses, la CENI a effectivement élaboré son budget et le budget a été déposé au gouvernement au 21e jour après la signature de l'accord. Ce budget est connu. Le vice-président de la CENI en avait fait large écho en indiquant qu'il était évalué à plus ou moins 1,8 milliard pour prendre en charge l'ensemble du processus électoral prévu par les cadres légaux congolais.
Important dispositif des forces de l'ordre déployé à N'Djamena ce matin pour empêcher une marche de femmes syndicalistes. La bourse du travail a été quadrillée dès 5h du matin. Les femmes syndicalistes se sont jointes au mouvement de contestation contre l'austérité budgétaire. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
Le Ougandais Dominic Ongwen était connu pour sa férocité, a affirmé ce mardi la procureure de la CPI lors de l'ouverture du procès de ce membre de la sanguinaire rébellion de l'armée de résistance du Seigneur. Les détails avec Nanit Talani.
Dominic Ongwen, âgé de 41 ans, est le premier membre de la LRA et le premier enfant soldat à être jugé par la CPI. Il est accusé d'avoir mené ou ordonné des attaques systématiques et généralisées contre des civils dans des camps de réfugiés. Il doit aussi répandre des mariages forcés des fillettes enlevées et distribuées comme trophées de guerre, et ainsi que des grossesses forcées. Selon des tests ADN cités par l'accusation, il serait le père d'au moins 11 enfants. La défense assure que M. Ongwen n'est qu'une victime et souffre du stress post-traumatique, car il n'était qu'un enfant lorsqu'il a été enlevé sur le chemin de l'école. Pour la procureure Fatou Bensouda, ce passé n'est ni une justification ni une excuse. Selon elle, contrairement aux 9000 personnes qui ont fui la LRA, Dominic Ongwen a choisi de rester dans les rangs des rebelles de Joseph Kony.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
5 nouveaux quartiers rebelles d'Alep en Syrie sont tombés ce mardi aux mains des troupes gouvernementales. Damas refuse toute trêve qui ne prévoit pas le départ des rebelles de la ville désormais contrôlée en grande partie par l'armée. La Russie et la Chine ont bloqué hier une résolution sur une trêve d'une semaine à Alep.
Nouveau Premier ministre en France, l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a remplacé Manuel Valls qui a démissionné pour se lancer dans la course à la présidentielle de 2017. Les détails avec John Lyndon.
Premier flic de France depuis avril 2014, Bernard Cazeneuve, un ancien juriste de 53 ans, s'est trouvé sous les feux des projecteurs en janvier 2015 avec une série d'attentats djihadistes qui ont fait 238 morts. Cet homme loyal bénéficie d'une image de sérieux pour avoir géré plusieurs crises. Auparavant, il était chargé des affaires européennes, puis du budget. Le nouveau Premier ministre sera chargé de conduire la France pour 5 mois jusqu'à la présidentielle de mai 2017. Il est remplacé au poste sensible de l'intérieur par Bruno Le Roux, jusqu'alors chef du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. François Hollande, le chef de l'État très impopulaire, a annoncé qu'il ne briguera pas de second mandat, ouvrant la voie aux ambitions de Manuel Valls, qui se prépare depuis des semaines à entrer dans la bataille.
Le président iranien menace de réagir avec vigueur au vote du Congrès américain, renouvelant les sanctions économiques contre Téhéran pour une période de 10 ans. Hassan Rouhani a indiqué que si le président Barack Obama met en application ces sanctions, ce serait une violation de l'accord sur le nucléaire iranien signé l'an dernier.
La compagnie sud-coréenne Samsung obtient gain de cause devant la Cour suprême des États-Unis. Les juges ont rejeté un jugement qui avait condamné Samsung à payer près de 400 millions de dollars à Apple, l'accusant de violation de brevets.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, doit prendre fonction le 20 janvier prochain, mais cela ne l'empêche pas de déclarer ses intentions concernant l'avion de commandement que Boeing est en train de construire. Dans un tweet ce matin, il estimait que le futur Air Force One va coûter trop cher, soit plus de 4 milliards de dollars. Il souhaite donc que la commande soit annulée. L'appareil devrait remplacer celui qu'utilise le président Barack Obama.
Et puis l'opposition au Venezuela se retire du processus de dialogue avec le gouvernement de Nicolas Maduro. Elle exige de nouvelles concessions du président vénézuélien avant toute reprise des discussions. Selon l'opposition, les deux parties étaient tombées d'accord sur la libération de prisonniers et sur l'organisation d'élections, ce que rejette le président Maduro. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et VOA.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
L'Égypte et la Chine ont signé un accord bilatéral d'échange de devises pour une période de 3 ans. L'accord, qui porte sur un montant de 2,62 milliards de dollars, doit faciliter le commerce entre les deux pays, apporter une bouffée d'oxygène dans les échanges extérieurs de l'Égypte et permettre à la Chine d'étendre sa sphère d'influence. Il pourrait faire l'objet d'une reconduction par consentement mutuel. En Côte d'Ivoire, le taux d'engagement du 11e Fonds européen de développement FED atteint 100% après 2 ans de mise en œuvre. D'un montant de 180 milliards de francs CFA, la dotation accordée à ce pays devrait être épuisée à la fin 2016. Pour le gouvernement ivoirien, face à cette performance et l'ampleur des besoins, une rallonge sera nécessaire pour les 4 années restantes, c'est-à-dire jusqu'à 2020. Pour terminer, l'emprunt international effectué par Africa Export Import Bank a suscité un grand engouement auprès des investisseurs dans un contexte marqué par une certaine fébrilité sur le marché africain des capitaux. L'institution, qui sollicitait 600 millions de dollars, a fini par accepter des souscriptions pour un montant global de 872 millions de dollars. L'opération était scindée en 2 tranches, dont une d'une maturité de 2 ans et l'autre d'une maturité de 3 ans. 73% des investisseurs ayant participé à la syndication ont opté pour cette dernière, alors même que c'est la première fois que l'institution offrait un délai de maturité aussi long.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Abdourahmane.
Alors, on démarre avec la Ligue des Champions ce mardi, 6e et dernière journée.
Dans le groupe A, le PSG face au Ludogorets et Arsenal en déplacement au FC Bâle. On rappelle que les Français et les Britanniques sont qualifiés pour le prochain tour. Dans le groupe B, une victoire à Kiev permettrait au club turc de Beşiktaş de passer pour la première fois le cap de la phase des groupes en Ligue des Champions. L'autre rencontre à Lisbonne au Stadio de la Luz, Benfica face à Naples dans un match décisif pour la première place de ce groupe. Dans le groupe C, Manchester City face au Celtic Glasgow et Lionel Messi et ses coéquipiers du FC Barcelone qui affrontent le Mönchengladbach, le club allemand. Un match sans enjeu mais qui devrait permettre aux Barcelonais de se rassurer.
Et la suite demain.
Enfin, dans le groupe D, le choc Bayern-Atlético Madrid. Un choc sans enjeu puisque les Espagnols termineront premier du groupe et les Allemands deuxième. Un match entre les moins bien classés, le PSV Eindhoven face à Rostov. Dans le groupe E, Monaco premier et Leverkusen sont déjà qualifiés. Eh bien, les deux clubs se rencontreront dans un match sans enjeu puisque les Monégasques sont premiers du groupe et les Allemands deuxième. L'autre match du groupe, Tottenham face au CSKA Moscou. Le feu d'artifice dans le groupe F à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Dortmund de Pierre-Emerick Aubameyang. Un match de gala pour la première place du groupe. Le Real Madrid qui compte 11 points contre 13 pour Dortmund. Dans le groupe G, il ne reste plus qu'un billet à prendre. Le premier étant en possession de Leicester, déjà qualifié et assuré de finir en tête du groupe. Porto et Copenhague vont s'affronter dans un duel à distance. Les Portugais auront fort à faire contre Leicester. Copenhague qui se déplace chez Bruges. Et puis dans le groupe H, la Juventus de Turin, déjà qualifiée, peut assurer la tête du groupe si elle l'emporte contre le Dynamo Zagreb. Et puis le FC Séville qui affrontera Lyon.
Chapecoense est proclamé champion de la Copa Sudamericana.
Oui, le club brésilien décimé la semaine dernière par une tragédie aérienne, vous le savez avant la finale, a été désigné hier vainqueur de cette Copa Sudamericana par la Conmebol. C'est le conseil d'administration de la Confédération Sud-Américaine de Football qui en a décidé ainsi.
NBA, pour terminer, c'est le championnat de basket nord-américain.
Cleveland, avec un grand LeBron James, auteur d'un très bon match, 34 points, a signé à Toronto une première victoire en 4 matchs, 116-112. Russell Westbrook a réussi un 6e triple-double d'affilée, avec une victoire d'Oklahoma à Atlanta, 102-99. Et puis, le grand bonhomme de la soirée, c'est Klay Thompson, qui a fait sauter la banque en inscrivant, tenez-vous bien, 60 points pour Golden State contre Indiana, victoire 142-106.
Voilà, merci beaucoup Nicolas Pinault, c'était la page des sports. Abdourahman Diaye et Nathalie Barge en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour.
Au Tchad, la marche des femmes de la plateforme de revendication syndicale N'Djamena n'a pas eu lieu. La bourse du travail a été quadrillée par les forces de l'ordre. Les carrefours, espaces publics et établissements scolaires étaient envahis par la police. Les femmes sont entrées dans la contestation pour réclamer le paiement des arriérés de salaire, entre autres revendications liées à la crise. J'ai joint la présidente du comité des femmes de l'Union des syndicats du Tchad, Adjoudji Gemi.
Nous nous sommes rendus à la bourse du travail. La bourse a été envahie par les militaires, les policiers, les gendarmes. Ils ont carrément fermé les entrées de la bourse du travail dont ils n'avaient pas accès. Nous nous sommes retrouvés quelque part, lancé la marche et la police est venue disperser. Nous avons été dans 4 endroits. Nous avons été tous dispersés et finalement nous sommes partis à la radio HM Liberté faire notre déclaration. Nous avons été vraiment surpris par l'arsenal que le gouvernement tchadien a sorti aujourd'hui pour faire face. Tous les arsenals étaient dehors aujourd'hui. Et même l'hélicoptère survolait la ville de N'Djamena. Donc nous avons vraiment été négativés.
Combien de femmes étiez-vous et est-ce qu'il y a eu des blessés?
Nous étions assez nombreux, mais dispersés parce que la police était derrière nous, ils nous pourchassaient presque.
Pourquoi les femmes se sont engagées dans cette contestation? Sont-elles plus touchées que les hommes par la crise?
Oui, nous avons relayé les autres organisations parce que dans toute cette crise, c'est la femme qui souffre le plus. Parce qu'en Afrique, tout repose sur la femme. Donc quand il y a crise financière, il y a aussi crise au sein de la famille. Et c'est pourquoi nous avons fait des communiqués, et pas seulement les travailleurs, mais même les femmes qui vendent sur les marchés, les femmes du secteur informel se sont jointes à nous.
Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Ce matin, je disais que c'est le début des actions. Nous n'allons plus arrêter tant que nous ne trouverons pas la solution à cette crise. Nous allons faire des actions, mais c'est des stratégies que nous allons développer. Nous n'allons pas les dévoiler tout de suite.
Les enfants ne vont toujours pas à l'école. Comment gérez-vous cela en tant que parent?
En tant que parent, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont à la maison. C'est les enfants des plus nantis qui vont dans les écoles privées. Mais on se demande, tant que l'école publique n'est pas démarrée, est-ce que cette année va vraiment être validée? C'est la question qu'on se pose. Mais nous, travailleurs moyens, les enfants sont à la maison. Nous attendons. Le gouvernement décide d'ouvrir donc et que les anciens reprennent le cours. Il faudrait qu'il y ait au moins leur salaire. Parce que pour se déplacer, il te faut au moins, même si tu n'as pas un engin de déplacement, il te faut de l'argent pour prendre le taxi. Et si tu as un engin, il te faut de l'argent pour acheter de l'essence dans l'engin pour pouvoir aller au travail. Mais tant qu'on n'a pas le salaire, nous ne pouvons pas travailler. Nous sommes bloqués à la maison.
Adjoudji Gemé, présidente du comité des femmes de l'Union des syndicats du Tchad, était jointe à N'Djamena.
Washington Forum ce jeudi, on revient sur le résultat inattendu des élections en Gambie. Après 22 ans de pouvoir, le président Yahya Jammeh, tant redouté de ses compatriotes, a perdu la présidentielle face à Adama Barrow et immédiatement a reconnu sa défaite. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de ce pays enclavé dans le Sénégal. Quel avenir pour le président sortant? Qui est le nouvel homme fort de Banjul? La Gambie peut-elle servir d'exemple d'alternance pour d'autres pays africains? Laissez nouveaux commentaires sur la page Facebook de voafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le gouvernement camerounais a dépêché des ministres et des députés anglophones dans leur région d'origine dans l'espoir de calmer la grogne croissante des populations contre ce qu'elles présentent comme leur marginalisation en violation de l'article 3 de la Constitution instaurant le bilinguisme dans les institutions. De Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, un reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté ici par Lionel Gaïma.
Lors d'un meeting à Boya, des milliers de militants du Social Democratic Front, SDF, le principal parti d'opposition, ont demandé à leur leader, John Fundi, d'arrêter l'exécution de l'hymne national camerounais en zone anglophone, le qualifiant d'hymne étranger. Frundi a expliqué s'être rendu à Boya pour soutenir la grève des avocats et des enseignants anglophones. Je veux que le gouvernement écoute ce que veulent les avocats et les enseignants, car ces derniers ne parlent pas sans raison. Ils s'expriment sur la base des méthodes établies d'enseignement et de pratique du droit. Dans l'espoir de résoudre cette crise, le président Paul Biya a dépêché divers ministres, députés, hommes d'affaires et chefs traditionnels anglophones dans leur région d'origine. Le professeur Elvis Ngolengole assure que le gouvernement a bien conscience des défis auxquels sont confrontés les Camerounais anglophones. Nous ne devons jamais perdre de vue l'intérêt supérieur qui est de nous unir, car cela nous place en meilleure position que lorsque nous sommes séparés. La grève dans les régions anglophones a été initiée par les avocats qui ont exigé l'affectation hors de leur région des juges parlant uniquement français. La justice ne peut être rendue lorsque le juge, l'avocat et le suspect ne peuvent pas communiquer du fait de la barrière linguistique, font-ils remarquer. Ces avocats réclament la traduction en anglais du code OADA des affaires. Faute d'avoir obtenu satisfaction, ils ont boycotté le procès en cours pour descendre dans la rue. Les enseignants anglophones leur ont emboîté le pas, de même que les étudiants. Des heurts entre les manifestants et les militaires ont fait plusieurs morts. De nombreuses personnes ont été interpellées. Pour Ndi Richard Tanto de l'ONG Service œcuménique pour la paix, le seul moyen pour les autorités de sortir de l'impasse est d'écouter la population anglophone.
Along the lines, anglophones...
En même temps que les anglophones ont présenté leurs problèmes, ils ont suggéré des solutions, mais je n'ai pas entendu des réactions du gouvernement. La violence a conduit à la fermeture de l'ensemble des écoles et des marchés dans les régions anglophones du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burkina Faso, les députés ont décidé de remettre au gouvernement 130 tablettes, un don de la société chinoise Huawei qui les avait offertes au Parlement par le biais du gouvernement. Mais cette entreprise a décroché un marché de 4 milliards de francs CFA. Pour le public, ce don est un acte de corruption et il est contraire à une loi votée sous la transition limitant les dons aux personnalités publiques à 30 000 francs CFA. Bagassi Koura a joint Alito Ido, député de l'opposition.
Vous savez que nous sortons d'une période d'insurgé où nous avons contesté la façon de gérer le pays. Donc les affaires publiques par les tenants du pouvoir que sont Blaise Compaoré et ses différents gouvernements. Alors donc les insurgés n'ont pas accepté que les députés issus donc de cette direction se permettent de prendre des tablettes des mains d'un opérateur économique qui a bénéficié d'un contrat. Et ce, d'ailleurs, au travers du ministère de l'économie numérique, lequel ministère doit être contrôlé par le Parlement. Alors, ils ont dit non, il y a eu des attaques de toutes parts. Moi-même, j'étais au Mali et j'ai estimé que ce n'était pas correct que notre assemblée prenne les tablettes. Beaucoup ont répondu en écho également à cet appel, et l'un dans l'autre, de remettre les tablettes.
Alors, vous retournez les tablettes parce que le peuple l'exige, le public l'exige, ou vous les retournez parce que c'est en violation de la loi?
Bon, la communication qui a été faite à l'Assemblée, c'est parce que le peuple, il y a eu incompréhension. Mais de mon point de vue, il y a bel et bien violation de la loi puisque nul ne peut accepter un cadeau d'une valeur de plus de 35 000 francs CFA, sans des formalités. Et pour justement mettre à l'abri tous les tenants du pouvoir, que ce soit des députés, des élus, ou bien des tenants nommés, ministres et autres, directeurs généraux ou simples directeurs de service. Donc personne ne peut donc recevoir un cadeau
dont la valeur dépasse les 35 000 francs CFA.
Alors, vous retournez les tablettes au gouvernement, mais pas à Huawei, donc le problème reste posé.
Les tablettes seront retournées au ministère en charge de l'économie numérique, puisque c'est là-bas qu'elles ont été remises à l'Assemblée. Mais ça, c'est un point de vue, évidemment, qui est discutable, il doit s'en dire.
C'était Alito Ido, député de l'opposition burkinabé.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Coup d'envoi de la CAN 2017 de football au Gabon dans 5 semaines. À cette occasion, deux militants de la société civile ont lancé un appel au boycott si les organisateurs n'annoncent pas son transfert vers un autre pays plus stable d'ici le 15 décembre. Nicolas Pinault a joint Marc Honor Essangani, l'un des signataires de cet appel.
Déjà, nous sommes dans une logique pacifique. Quand on parle de sabotage, ça veut tout simplement dire que nous ne souhaitons pas que la CAN se déroule dans de très bonnes conditions au Gabon. Vous savez, la CAF est une organisation internationale qui a instauré dans l'un de ses articles les droits de l'homme. Et par conséquent, les respects des droits de l'homme doivent figurer en bonne place dans la logique de la CAF. Mais il se trouve que la Confédération africaine de football va organiser en moins de 10 ans deux coups d'Afrique des Nations dans un pays où toute une famille règne depuis 50 ans. Et le fait d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations à quelques mois d'une répression qui a endeuillé beaucoup de familles et surtout un coup de force électorale qui a fait en sorte qu'Ali Bongo, qui n'a pas été élu par les Gabonais, s'impose par les armes. Nous disons tout simplement que la Coupe d'Afrique des Nations, qui doit être une fête panafricaine, ne doit pas être organisée dans un pays où le moindre droit, celui de choisir son représentant, n'est pas respecté.
Si la CAF ne vous entend pas, vous appelez à la mobilisation de la population gabonaise.
Si la CAF organise cette Coupe d'Afrique des Nations, nous préférons dire à M. Ayatou que chaque match qui se joue au Gabon sera transformé en meeting dans des stades, des meetings politiques, des meetings des slogans en défaveur d'Ali Bongo, qui sera peut-être dans les tribunes. Nous allons manifester. Mais il est évident que nous n'allons pas porter atteinte à aux joueurs africains qui seront là. Mais nous allons tout simplement manifester notre mécontentement. Les joueurs africains qui sont là, ce sont nos frères, mais ce n'est pas de leur faute. Il appartient à la CAF de prendre ses responsabilités, de ne pas exposer tous ses fils et toutes ses filles africaines face à un mécontentement. Il est évident que ceux qui vont venir ne seront pas les bienvenus. Or, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Et nous savons très bien que la zone où va s'organiser la Coupe d'Afrique des Nations est victime d'inondations. Les populations sont dans la rue, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à viabiliser la zone. Beaucoup de familles sont dans la rue, dans la même zone où la Coupe d'Afrique va s'organiser à Libreville. Et dans beaucoup de provinces, par exemple la province du Walintem, la province du Moyen de l'Ouest-Maritime, ce sont des provinces très frondeuses. Et je ne sais pas comment M. Ayatou va s'y prendre, parce qu'en termes infrastructurels, je prends le cas du Walintem, les hôtels ne sont pas dignes d'accueillir des fils et des filles d'Afrique qui viennent pour fêter. Je crois que là aussi, la manière dont le Gabon a obtenu l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a suscité une polémique, on s'interroge. On va continuer à s'interroger sur les conditions d'attribution de cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon.
Que répondez-vous à ceux qui vous accusent déjà d'appel à l'insurrection ?
L'insurrection aussi est reconnue par les constitutions au cas où l'injustice ne s'applique pas. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est écrit dans les constitutions africaines. L'insurrection est aussi, c'est un droit, le droit de protester, de manifester face à une injustice.
Marcona Essangui, directeur de l'ONG Brent Forest au Gabon.
Voilà, c'est la fin de cette édition. La mise en onde était assurée par Georges Léonard Sagnot avec Wagner Robert. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook avec plus de 2 millions de fans. N'oubliez pas de visiter notre site internet veafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM.
Clédou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.